Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Le chef de l'État poursuit son séjour au Kasaï oriental où il est arrivé hier soir. Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la population de Mbujimayi pour échanger autour des sujets de développement de cette province. Détail dans un instant. Et puis, le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation a mis en place entre 2016 et 2025 une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons Valère Moussiamoulombe qui salue le bilan de ce programme. Il est donc l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République démocratique du Congo poursuit son séjour au Kasaï oriental où il est arrivé jeudi soir. Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la population sur la place de Bonzola pour échanger autour des sujets de développement de cette province. Pour ce vendredi, le chef de l'État dirige la réunion du Conseil des ministres dans les installations de la société minière de Bakwangamiba. Cela avant l'inauguration de l'hôpital général de référence de la Mouya, récemment reconstruit, et le lancement officiel du programme de la gratuité de la maternité. Après l'étape du Kasaï oriental, le président de la République se rendra demain samedi à Tshikapa dans la province du Kasaï. Et lors d'un point de presse tenu ce vendredi matin à Mbujimayi au Kasaï oriental, le gouverneur Jean-Paul Mbwembwe a exprimé sa satisfaction quant aux réalisations du gouvernement en faveur de la province. Il a souligné que depuis l'arrivée au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, cette province a connu des transformations significatives. Des précisions dans ce reportage de Karine Topé rendu par Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
D'après le gouverneur du Kasaï oriental Jean-Paul Mbwembwe, tous les anciens présidents de la République n'avaient jamais pu réaliser des projets de développement au bénéfice des habitants du Kasaï oriental. Selon lui, si la population de sa province soutient Félix-Antoine Tshisekedi, c'est principalement en raison de la réalisation de plusieurs ouvrages publics, notamment la réhabilitation de la voirie urbaine, la construction de l'aéroport de Mbujimayi, dont les travaux sont en cours, et bien d'autres encore. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Mbujimayi jeudi 26 décembre, après avoir visité le Kasaï central à Kananga, là où le président de la République avait inspecté les travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji. Cette route, longue de 220 km, est d'une grande importance économique pour ces deux régions. Elle mène vers l'Angola en passant par le port de Lobito, offrant ainsi une ouverture sur l'océan Atlantique.
Ici à Kinshasa, à l'aube de la fête de Noël, le gouverneur de la ville et la première ministre ont effectué ce jeudi une ronde d'inspection sur les différents sites où s'exécutent les travaux de réhabilitation et de construction des routes dans la capitale. La chef du gouvernement s'est dit satisfaite du constat fait sur le terrain en termes d'exécution des travaux. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
À la première étape de cette tournée, Daniel Bumba et Judith Souminoa sont passés sur l'avenue Kulumba en pleine construction dans la commune de Massina. Cette route d'intérêt commun fera jonction avec l'avenue Poilou au niveau de la 15e rue dans la commune de Limété et va permettre de désengorger les boulevards Lumumba. Leur itinérance s'est poursuivie sur l'avenue Flambeau en passant par Tombalbaye, Wangata, Kabambare, Zigida, et puis sur l'avenue Kisangani à Bandalungwa, pour chuter sur l'avenue Pumbu, dans la commune de la Gombe. Les constats de la première ministre et du gouverneur de Kinshasa a été satisfaisant sur l'avenue Colonel Ebeya, dont le béton a été coulé entre les avenues des Zuleries et Wangata. Partout où ils sont passés, les Kinois saluer les efforts consentis jusque-là par l'autorité urbaine pour relever les défis du délabrement de la voirie, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cependant, la première ministre a rassuré de l'accompagnement de son gouvernement au gouverneur Daniel Bumba pour que la capitale congolaise recouvre son image d'antan de Kinlabel.
Dans l'actualité aussi, plus de 10 000 déplacés, dont 2 870 enfants ainsi que des femmes enceintes et allaitantes vivent dans des conditions déplorables dans la cité de Popokabaka. Nous sommes dans le Grand Bandundu. Il s'agit des personnes qui ont fui leur village à cause des récentes attaques de la milice Mobondo dans ce coin de la province du Kwango. Selon un rapport d'une ONG locale, Programme pour le développement et la lutte contre les maladies, ces personnes sont dépourvues de tout pour leur survie et n'ont aucune assistance. Son coordonnateur, Symphorien Kwengo, plaide auprès des autorités et des partenaires pour une assistance en leur faveur. Irène Mboma nous fait le point.
Ces attaques des miliciens Mobondo ont eu lieu entre le 6 et le 12 décembre 2024 et ont causé des dégâts importants dans le secteur de Lufuna, en territoire de Popokabaka. Au moins 150 habitations incendiées, 5 ponts détruits et un pillage systématique des localités touchées, peut-on lire dans ces rapports de l'ONG Prodelma, Programme pour le développement et la lutte contre les maladies. Ces événements ont occasionné le déplacement massif de la population. Présentement, 10 346 personnes issues de 679 ménages ont fui leur village pour se réfugier dans les zones jugées sécurisées, notamment dans la cité de Popokabaka et ses environs. Leurs conditions de vie sont précaires pour le moment, indique le président de cette structure de la société civile, Symphorien Kwengo.
Ces déplacés font face à des besoins humanitaires en abri, nourriture, soins médicaux, protection. Nous demandons ainsi au gouvernement et aux humanitaires de déployer en urgence une mission d'assistance en faveur de ces personnes rendues vulnérables.
L'ONG Prodelma dresse aussi un bilan de 117 blessés et de 170 morts depuis le début des atrocités commises par les Mobondo dans la province du Kwango. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et puis, la province du Tanganyika plutôt fait face à de nombreux défis et qui nécessitent une attention particulière du gouvernement central et du chef de l'État, ainsi qu'une union sans pareil au sein des communautés locales. Dans une déclaration faite devant quelques médias hier pour réconforter les habitants de cette province en guise de message de vœux, la députée nationale Sophie Kakuji, secrétaire générale du parti Action commune pour la République et élue du territoire de Kabalo, invite le chef de l'État à apporter une attention particulière à la précarité de vie dans les différents territoires du Tanganyika. Elle cite entre autres les inondations à Kabalo, les coupeurs de routes à Manono et l'absence des routes des dessertes agricoles à Kongolo et Nyunzu, ce qui entraîne une hausse des prix des denrées de première nécessité. La députée nationale Sophie Kakuji, dans ses propos recueillis par Billy Van Lutumba.
La situation de notre province du Tanganyika mérite que je lève ma voix pour implorer votre regard, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La province du Tanganyika se trouve sous pression des monts qui la rongent en profondeur. À mon territoire de Kabalo, les inondations ne cessent de détruire les cultures de mes frères et sœurs. Pendant que les enseignants ont du mal à respecter les calendriers scolaires, du fait qu'ils doivent parcourir de longues distances pour converger vers les points de paie de leur salaire. Ceci fait qu'ils perdent pratiquement une semaine chaque mois et les élèves ratent les cours. Ceci parce qu'il n'y a pas de réseau internet dans ces territoires. À Kongolo et Nyunzu, les prix ont pris l'ascenseur faute de route. À Moba, la délinquance juvénile fait la loi. À Manono, des casseurs de route font la loi, rendant aussi la vie difficile. À Kalemie, vous y avez été. Vous avez vu dans quel état se trouve la ville. L'urgence s'impose pour que cette ville attire votre attention. Excellence, Monsieur le Président de la République.
Du côté de l'Ituri, les communautés victimes des atrocités des groupes armés déplorent l'approche de l'autorité provinciale qui veut qu'elle se réconcilie avec les différentes milices qui commettent des graves violations des droits de l'homme contre la population. Dans une déclaration à la presse hier, Vital Tungulo, porte-parole de ces communautés, indique que cet appel du gouverneur est une façon de se dérober de sa responsabilité ou celle du gouvernement d'imposer la paix en Ituri en combattant ces hommes armés, mais aussi d'assimiler les groupes armés aux différents communautés qui sont pourtant victimes de leurs atrocités. Écoutons plutôt Vital Tungulo au micro de Isaac Remoyope.
Un mouvement permanent des miliciens de la Codeco est observé surtout entre Jina et Fataki, sur une distance d'environ 50 km dans les territoires de Djougou. Ils tendent des embuscades contre les véhicules et les usagers des routes. Le dernier cas a été déploré jeudi où un habitant a été pris en otage vers Jina, ce qui a suscité une tension dans la zone. Le marché de Jina n'a pas fonctionné et le trafic suspendu par peur des représailles. Le mercredi dernier, 5 civils ont été également enlevés par ces miliciens de la Codeco dans la même localité. Parmi les victimes, il y a 10 femmes qui seraient violées par ces hommes armés, indiquent des sources locales. Ces otages ont été libérés après quelques heures grâce à l'implication des autorités coutumières locales. Un véhicule est également tombé dans l'embuscade de ces hommes armés la veille de Noël vers Sandoukou. Une femme et un enfant mineur ont été pris en otage. Un autre groupe de miliciens a bloqué les passages mercredi vers Pangapanga. Les forces de la MONUSCO et les FARDC tentent de contenir les menaces de cette milice en renforçant leur présence sur l'axe Loda, Sandoukou et Libi. Les usagers demandent aux services de sécurité de redoubler d'efforts pour la protection des civils et garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toutes nos excuses, là c'était plutôt le reportage de Isaac Remoyope parlant de l'insécurité sur les routes Mahagi et autres dans la province de l'Ituri. Et je vous rappelle que le gouverneur de l'Ituri avait demandé aux fils et filles de cette province de se réconcilier et de se pardonner pour la promotion de la paix en Ituri. Appel lancé au cours d'un point de presse mardi sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans cette province en 2024. Rendons-nous au sud Kivu. Les affrontements ont repris à Minembwe jeudi tôt le matin. C'est après une semaine d'accalmie entre les FARDC et la coalition des forces rebelles Twiraneo, commandée par le colonel dissident des FARDC, aujourd'hui général autoproclamé dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Les crépitements des armes lourdes et légères ont été entendus dans différents villages du groupement Basimunyaka Sud. La population de Muliza, localité située entre Bikarakara et Minembwe s'est déplacé. L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji, confirme l'information avec des détails au micro de Jean Kassami.
C'est depuis 5 heures du matin de ce jeudi que la coalition Tukaneo Komino Android du général autoproclamé Makanika affronte les forces régaliennes FARDC dans les hauts plateaux de Fizi, précisément dans le secteur de Lulenge, dans le groupement de Bashimunyaka Sud. Ces affrontements se déroulent dans les villages de Naturongo, Kimimbi, Biziba et Nyakishashu. Nos FARDC tiennent encore bon sur toutes les lignes de front. Signalons aussi le déplacement massif de la population de Muliza, un village frontalier entre Bikarakara et Minembwe, qui se dirige vers le village voisin pour chercher un abri. Les groupes armés Komino Android Tui Ikaneo sont à Kalonge, Muliza, Rubemba, Bijabo, qui est considéré comme leur état-major général, et Kalingi, Ilundu et Kabingo. Ce sont là les bases stratégiques de ces groupes armés.
Direction le Nord Kivu. Au moins 150 enfants âgés de 2 à 17 ans qui erraient dans les cimetières situés dans le territoire de Nyiragongo sont encadrés depuis 2 mois par l'organisation Union des Chrétiens pour le Développement. Ces enfants sont reçus dans 2 centres communautaires pour la protection de l'enfance, CCPE, dans les villages de Kaguri et Bouvira. C'est à travers le projet Ukingo, appuyé par LM International. Rosalie Zawadi a visité l'un de ces centres et nous propose ce reportage.
Dans ces groupes, les enfants apprennent à compter. À côté, un autre groupe fabrique des bracelets. Un peu loin, dans les mêmes hangars en bâche, les groupes des plus âgés font la peinture. C'est presque la fin de la matinée. Avant le début de ces projets, à pareille heure, ces enfants erraient dans les parkings des cimetières situés dans la zone. Ces garçons de 14 ans y allaient avec tous ses cadets.
J'allais au cimetière car je n'avais rien d'autre à faire. Maman quittait la maison et le matin, elle allait chercher à brousse à manger juste pour le soir. Elle ne nous laissait rien à manger à midi. C'est pourquoi nous allions au cimetière pour chercher ce qui pouvait nous aider avec des cannes à sucre. Nous demandions aussi de l'argent aux personnes qui venaient en voiture à l'enterrement.
Parmi ces enfants, certains sont déplacés et d'autres vivent dans la zone. Olivier Biamungu est responsable de l'organisation Union des Chrétiens pour le Développement.
Ici, nous avons les encadrés dans nos centres avec une diversité de connaissances. Maintenant, dans les centres, les enfants arrivent le matin, ils prennent la bouillie et le pain et pendant la journée, ils mangent.
Les notables de Nyiragongo demandent le rétablissement de la paix afin que les parents arrivent à bien prendre en charge leurs enfants car ce projet est limité dans les temps. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province du Maniema, en cette période des vacances de Noël et de Nouvel An, la coordination diocésaine du groupe Kizito et Anuarite tient une colonie de vacances en faveur des enfants venus des trois communes de la ville de Kindu et ses environs. Ces enfants, plus de 400, profitent de ces moments non seulement pour s'y reposer, mais aussi d'apprendre et de se divertir. Ces activités de la colonie se déroulent dans l'enceinte de l'Institut Les Nanos de Kindu et ont été ouvertes par l'évêque du diocèse catholique de Kindu, Monseigneur François Abeli. C'est un reportage de Florence Kizalunga.
Cette colonie est un moment propice pour ces jeunes d'apprendre comment se prendre en charge dans la vie et comment nouer de bonnes relations. Suivez les attentes de certains d'entre eux.
Pour s'échapper des problèmes à la maison, nous sommes venus ici se reposer le jour des colonies. À la fin de cette colonie, je viens acquérir de nouvelles connaissances pouvant m'aider à vivre dans la société.
Je me sens bien d'être ici aux colonies des vacances avec mes amis de la paroisse différente.
Justement, c'est pour, entre autres, encadrer ces enfants que cette colonie s'organise en cette période de détente, fait savoir l'aumônier M. l'abbé Bernard Kanvou.
L'objectif de l'organisation de cette colonie, d'abord c'est pour occuper les enfants pendant les moments des vacances. Comme vous le savez, pendant ces temps, si les enfants ne sont pas bien encadrés, parfois ils sont exposés à beaucoup d'attractions. Alors nous avons organisé cette colonie pour encadrer les enfants du point de vue intellectuel. On a donné des enseignements éducatifs et aussi du point de vue spirituel. Et aussi, il y aura un moment de découverte.
Monseigneur l'évêque François Abeli remercie les parents pour leur confiance et ses partenaires pour leur appui. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale. Nous sommes en Guinée. À la suite de l'annonce du report de la fin de la période de transition, les forces vives qui regroupent une partie de l'opposition et de la société civile déclarent ne plus reconnaître l'autorité de la junte militaire à partir du 31 décembre 2024, une date qui marquait initialement la fin de la période de transition promise par les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de 2021. Il y a deux semaines, le porte-parole du gouvernement a annoncé que la date ne serait pas tenue, évoquant la refondation de l'État. Ce rejet de la prolongation de la transition par ce rassemblement de l'opposition pourrait marquer une nouvelle phase de la crise politique en Guinée.
L'invité.
Le secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation a mis en place entre 2016 et 2025 une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en RDC. Invité de Radio Kapi, le secrétaire permanent de cette structure explique qu'à travers ce programme, ils veulent non seulement scolariser plus d'enfants, mais également les retenir dans le cursus scolaire en améliorant la qualité de l'éducation. Valère Moussia Moulombe s'entretient à ce sujet avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Valère Moussia Molombe.
Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour Monsieur Blaise.
Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la stratégie de l'éducation en situation d'urgence en République démocratique du Congo?
Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que notre pays, comme la plupart d'autres pays ici en Afrique, est confronté à divers types d'événements à la fois naturels, mais aussi causés par les hommes. Alors, il est confronté à des événements naturels tels que les catastrophes naturelles ou les épidémies. Tous ces événements font en sorte que l'éducation dans certains coins ne puisse pas se dérouler normalement. Toutes ces situations font que les enfants sont obligés de rester à la maison ou de se déplacer, de fuir et par conséquent ne suivent pas les enseignements de leurs professeurs ou de leurs enseignants. Et donc pour ça, il faut intervenir. Un certain temps, il faut dire que bon, on ne s'est jamais croisé les bras. Que ce soit le gouvernement ou ses partenaires ont toujours essayé de faire en sorte que l'éducation dans ces coins qui sont impactés puisse quand même continuer à soit aller à l'école ou à suivre les enseignements. Et d'autre part, faire en sorte que notre système éducatif devienne résilient, c'est-à-dire que, qu'il soit capable de pouvoir supporter tels événements au lieu qu'on soit chaque fois surpris par les événements.
Qu'est-ce que nous pouvons mettre à votre actif au cours de l'année 2024 finissante?
Par rapport à quoi?
Par rapport à vos interventions dans les secteurs de l'éducation.
L'espace n'a pas de projet à lui seul. L'espace appuie, si vous voulez, les administrations, appuie les ministères dans la mise en œuvre des réformes. Et c'est ce que nous essayons de faire sur le plan technique. Nous travaillons toujours avec, de concert avec les partenaires de l'éducation, mais également avec les administrations directement. Autre chose également, c'est de pouvoir coordonner, faire en sorte que qu'il y ait toujours un peu plus de ressources dans les secteurs pour lui permettre de pouvoir mettre en place ces réformes. Donc nous animons le dialogue entre le gouvernement et les bailleurs extérieurs, ça c'est une chose, mais en même temps également, nous faisons en sorte de pouvoir pousser, de donner des arguments au ministère que nous appuyons, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, Nouvelle Citoyenneté, le ministère d'Enseignement supérieur et universitaire, les Affaires sociales, la formation professionnelle. Nous faisons en sorte que nous puissions leur donner des arguments, qu'ils puissent rendre leur discussion au niveau du Parlement plus efficace pour pouvoir obtenir plus de ressources pour l'éducation.
Est-ce que pouvons-nous savoir ces bailleurs qui vous accompagnent dans votre travail?
On a des partenaires traditionnels que nous connaissons tous, à savoir la coopération bilatérale dans les États, comme la Belgique, la France, etc., l'Allemagne, mais également des partenaires multilatéraux comme la Banque mondiale, comme l'UNICEF, l'UNESCO, etc. Je ne vais pas les citer tous ici.
Ouais. Si ce n'est pas un secret, messieurs Valeurs, quel est le coût de la mise en œuvre de votre programme en RDC?
Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en œuvre de ce grand programme avait un gap d'à peu près 3 milliards de dollars, donc pour 10 ans.
Quelle est la réforme phare que nous pouvons retenir tout au long de cette année?
La politique phare qui a marqué quand même les 3 dernières années, c'est la gratuité, si vous voulez, de l'éducation de base, en commençant par l'enseignement primaire. Il faut également que ces enfants qui vont à l'école soient de plus en plus nombreux, il faut qu'ils aient un enseignement de qualité. Et donc, tout cela constitue un paquet de réformes au sein de la politique de la gratuité pour que cette gratuité puisse vraiment profiter de manière efficace à tous les enfants, mais de manière durable.
Quelles sont vos perspectives d'avenir?
En perspective, nous sommes en train, je vous l'ai dit en passant, de préparer avec l'ensemble des 4 ministères, les administrations, le nouveau plan stratégique qui va couvrir la période 2026-2030. Il y a eu certainement des ratés. On va essayer donc de rattraper les choses pour corriger ce qu'on a pu faire pendant la période écoulée, ajuster la façon de travailler.
Monsieur Valère Moussia Molombe, nous vous disons merci.
Et par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.